RMC. M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Salut à tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, une femme de caractère qui se présente à la tête des Républicains pour devenir leur chef. Que veut-elle faire de son parti? Soutien de François Fillon? Est-elle à la droite ou à la gauche de la ligne du favori Laurent Wauquiez? Florence Bertelli répondra à nos questions tout à l'heure. Mais d'abord, quelle différence y a-t-il entre un séducteur et un harceleur? Quelle différence entre un gros lourd et un homme hors la loi? Quelle différence entre une fille susceptible et une victime en danger? Le harcèlement au travail, longtemps culturel, aujourd'hui puni par la loi, vous le vivez, vous ne comprenez pas du tout de quoi je parle, ça vous dépasse ou au contraire, il est temps que ça s'arrête. Jérôme et moi attendons vos appels au 3216 et sur Twitter, hashtag M comme M.
RMC, M comme Maïtena.
Ça a été très très vite explicite. Je t'imagine derrière mon bureau, là tout de suite j'ai envie de te bouffer les seins.
Harcèlement sexuel au travail, vrai ou faux?
Il dit qu'il a un droit de cuissage sur moi.
Harcèlement sexuel au travail, vrai ou faux?
Il voulait que je mette des habits très très courts, que je sois presque dénudée en fait.
C'est du harcèlement sexuel au travail, oui ou non?
C'est un des producteurs les plus respectés d'Hollywood. Le New York Times publie une enquête qui accuse Harvey Weinstein de harcèlement sexuel à l'encontre de 8 femmes au moins.
Maïtena Birabin.
Bonjour Maud Beckers.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialiste du droit du travail et des discriminations. Quel pourcentage de femmes harcelées portent plainte?
Écoutez, très peu, puisqu'il y a 5% des femmes qui sont harcelées sexuellement qui 5%. Portent plainte au pénal. Oui, ouais. Exactement.
Et vous êtes débordée pour autant ou pas?
Écoutez, vu que c'est mon activité tout de même quotidienne, j'ai beaucoup de dossiers. Il y a peu d'avocats qui traitent ce type de dossier. Mais il faut savoir qu'elles ne vont pas qu'au pénal. Souvent, elles vont aussi au prud'homme, faire condamner leur employeur. Et là, c'est un combat extrêmement important également.
Bonjour Andrea Rollins.
Bonjour Maïtena Birabin.
Vous avez co-réalisé avec Laurent Folea une enquête diffusée ce soir sur France 2 dans le cadre d'une grande soirée thématique consacrée au harcèlement. C'est à 22h30, harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous. Pourquoi l'affaire de tous?
Parce que je suis convaincue que tout ce temps que nous sommes, on n'est pas très au clair sur ce qu'est le harcèlement sexuel au travail. Je pense que moi-même, quand j'ai démarré ce film, j'étais pas non plus très au clair. Pour moi, c'était du droit de cuissage, de la drague qui dérape. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus pervers, qu'il s'agit de domination, d'anéantir, d'humilier la femme, puisqu'en général, ce sont des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail.
Alors, je vais vous donner la définition, comme ça, on sera tous sur le même pied d'égalité. La définition donnée par la loi du harcèlement est la suivante: c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos, des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Maintenant que je vous ai dit ça, je ne suis pas sûre d'y voir beaucoup plus clair, Maud Beckers.
Alors, je comprends pourquoi vous ne voyez pas plus clair, d'autant plus que c'est une définition qui a évolué et elle n'a que 5 ans. Donc évidemment, pour se familiariser avec cette loi, cette définition qui n'a que 5 ans et qui est en fait issue des directives européennes, c'est un peu compliqué, d'autant plus que dans l'esprit collectif, le harcèlement sexuel, c'est en gros le droit de cuissage.
Oui.
C'est-à-dire harceler une femme pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec elle. C'est une des définitions, une des parties de la définition du harcèlement sexuel. Mais en fait, tous les propos, tous les comportements qu'un homme harceleur pourra avoir vis-à-vis d'une victime, dans le but en effet d'atteindre sa dignité, de l'humilier, ça pourra être caractérisé de harcèlement sexuel. Et en fait, les harceleurs voient très bien en règle générale ce que ça signifie d'humilier quelqu'un, et ils savent très bien quand ils passent soi-disant d'un comportement séducteur à un comportement humiliant, et les femmes comprennent tout à fait aussi la différence entre se faire séduire et être harcelé.
Oui, la drague et le harcèlement, c'est pas la même chose, on va en reparler. Juste une chose, le harcèlement, c'est forcément un homme versus une femme?
Statistiquement, oui. Sociologiquement, oui. La majorité des victimes sont des femmes. Après, je ne nie pas qu'il n'y ait pas d'hommes, mais en tout cas, ce sont massivement des femmes. Ouais.
Un homme peut harceler un homme aussi.
Ah oui, tout à fait.
Il n'y a pas d'hommes dans votre film, hein. Il n'y a que des femmes, que des témoignages de femmes.
Ouais.
À visage démasqué, il faut le préciser. Michael, bonjour. Merci d'être avec nous au 3216.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Bah, ça va bien.
Ouais, ça va bien, tant mieux. Vous travaillez dans quoi, Michael?
Moi, je suis en recherche d'emploi actuellement.
Okay.
Dans la gestion de stock.
Ok. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le harcèlement sexuel? Est-ce que vous avez déjà vu ça?
Alors, moi, je vais vous dire très sincèrement, c'est tellement facile à différencier ceux qui sont respectueux.
Oui.
Ceux qui sont de mauvaise foi.
Oui.
Ceux qui consistent à monter les uns contre les autres, que je trouve de plus en plus insupportable dans cette société, dans ce siècle. Alors qu'avant, vous remarquerez que les rapports entre hommes et femmes ou du même sexe, bah, ça paraissait plus simple avant.
Vous voulez dire qu'on légifère sur des choses qui n'ont pas nécessité à l'être?
Non, mais vous avez remarqué que quand même dans cette société, ce qui est insupportable, c'est que c'est ce qui est paradoxal. On est en 2017, oui. On a l'impression que il y a de plus en plus de tensions entre communautés, entre sexes. Je veux dire, moi j'adore les femmes.
Oui.
J'ai pas un physique monstrueux comme je ne suis pas Robert Redford ou George Clooney.
Moi non plus.
Vous êtes quand même pas mal, hein. Bon, mm-hmm. Mais ça c'est bon. Je pense que vous vous êtes fait solliciter avant d'être connu.
Je me suis fait draguer, ça m'est arrivé, mais j'ai eu la chance de n'avoir jamais été harcelé sexuellement et c'est pas tout à fait pareil, Michael.
Voilà. Ben justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger entre une tentative de séduction,
oui,
et le fait de, vous savez, ceux qui peuvent piéger d'une manière perverse, à savoir insister lourdement,
oui,
et ensuite faire croire qu'ils sont victimes ou essayer de culpabiliser la personne.
Alors attendez,
je déteste ça.
Je vais résumer pouvoir résumer votre question et je me tourne vers Andrea Rollins qui signe donc ce documentaire et cette enquête réalisée autour du harcèlement. Est-ce qu'il y a un problème de culture? Est-ce que dans les cultures latines, on va dire plus dragueuses, c'est plus compliqué de définir le harcèlement sexuel?
La réponse est, je dirais oui et je dirais non. Instinctivement comme ça, je dirais oui, sans doute, parce que en France, en tout cas, il y a cette culture de la gauloiserie, de la blagounette grivoise, voilà, et beaucoup.
C'est condamnable ça, la grivoiserie et la blagounette.
C'est condamnable à partir du moment où la femme, oui, se sent humiliée
blessée
et mal. Enfin, elles, oui, sont plus que blessées, elles sont détruites. S'il y a une intention de nuire, c'est du harcèlement.
Donc c'est la manière dont la chose est reçue qui va définir.
Après, effectivement, il y a des femmes pour qui le seuil de tolérance va être plus élevé que d'autres. Voilà. Et tout l'objectif, c'est de comprendre quel est le seuil de tolérance de la personne qu'on a en face et de ne pas dépasser cette limite.
Et ça, c'est effectivement à l'interlocuteur de le percevoir. Maud Beckers, vous diriez qu'il y a une typologie de femmes qui supportent plus mal que d'autres, la grivoiserie ou l'excès?
Non, moi je dois dire que toutes les femmes que je reçois à mon cabinet sont des femmes qui correspondent exactement à l'inverse de ce que les clichés tentent de diffuser comme image des femmes. Ce sont des guerrières, moi, que je défends. Ce sont des femmes qui sont extrêmement fortes et qui sont donc à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Ce sont pas des pauvres petites femmes fragiles qui sont trop prudes et qui n'acceptent pas une blague. Ce qu'on ne comprend pas,
ce sont pas des femmes susceptibles.
Non, elles ne sont pas susceptibles. Juste, la différence, c'est que le harcèlement, c'est pas la séduction. La séduction, c'est un rapport à deux. Le harcèlement, c'est une insistance unilatérale où le consentement de l'autre n'a aucune importance. Et je dirais même pire, c'est que la résistance de l'autre va accélérer le harcèlement. Donc, en règle générale, ce sont des femmes en plus qui ont dit non très clairement.
Oui.
Et elles sont, comme vous l'avez rappelé, très peu à porter plainte. Donc celles qui portent plainte, ce sont véritablement des femmes qui sont très claires sur ce qu'elles ont subi.
Je poursuis sur les questions qu'éventuellement vous pouvez vous poser. Est-ce qu'une femme moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me faire draguer par quelqu'un, de ne pas avoir envie de répondre à la sollicitation et d'être poli, de ne pas envoyer balader, peut-être de ne pas être assez claire d'ailleurs, peut-être, ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que j'aurais réagi. Est-ce que cette personne peut du coup comprendre que je le laisse faire, Andrea?
Je pense que tout le sujet aujourd'hui, c'est aussi de, et c'est pour ça que c'est l'affaire de tous, de s'éduquer sur le harcèlement sexuel, oui, au travail. Et je pense, en revanche, que beaucoup de femmes ne repèrent pas qu'elles subissent du harcèlement sexuel au, oui, travail. Elles ont l'impression, il y en a beaucoup, hein, au départ, qui ne répondent pas frontalement, qui disent « je suis mariée, ça ne m'intéresse pas, je vais rejoindre mon mari ». Donc, je pense aussi, moi je suis la maman d'une petite fille de 8 ans, que c'est aussi une façon d'éduquer les petites filles
et les petits garçons.
Et les petits garçons, absolument, qui va nous permettre de bien faire comprendre qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et ces lignes-là, Maud Beckers vient très bien de les décrire.
Donc, et c'est pas parce qu'on ne dit pas non qu'on dit oui.
Oui.
C'est toute la difficulté que certains hommes ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que le silence ou le fait de renvoyer poliment quelqu'un qui s'adresse à nous de façon harcelante, c'est pas la porte ouverte. Ça peut être un non poli, mais c'est à lui aussi de le comprendre. Et en effet, l'éducation permet de changer les choses à ce niveau-là.
Merci Michael d'avoir été avec nous au 32-16. Je vais me tourner vers Pierre maintenant. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Maïtena.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez. Vous avez déjà vu ça, une situation où vous disiez, là, c'est pas de la drague, c'est compliqué.
J'ai jamais eu cette situation, mais c'est vrai que je travaille dans un milieu où j'ai que des femmes autour de moi dans mon travail.
Oui.
Donc c'est vrai que je me pose souvent la question de me dire bon bah j'espère que dans mes propos et dans mon comportement il n'y a jamais de doute et de litige, parce que bon bah c'est jamais simple avec tout le monde, hein. Il y a des gens très tactiles et même des femmes très tactiles par exemple avec moi.
Ouais.
Et inversement d'autres qui sont plus herculons avec les hommes. Bah moi personnellement je me mets des limites quoi. Donc mes limites c'est justement jamais toucher. Donc, pour moi c'est de la limite justement entre un acte qui peut être de la séduction et une agression sexuelle ou voilà, je me dis, évite d'avoir un toucher avec quelqu'un parce que là, c'est vraiment une limite à pas franchir.
Mais vous êtes
le bras ou la main.
Pierre, vous êtes inquiet quand vous allez au boulot ou simplement vous dites, voilà, non, ça, il faut pas que je le fasse.
Non, j'ai des règles de base dans la tête. En fait, c'est automatique, quoi. Comme quand je suis poli avec quelqu'un dans la
oui.
rue, automatiquement, je me dis, là, il faut pas dépasser les limites. Ou s'il y a pas en pipé, évidemment, il y a de l'humour quand même au travail. Hein, faut pas exagérer.
Bah oui, heureusement.
Mais j'essaie que ce soit en groupe, par exemple, en me disant, ça peut pas être pris comme une agression, parce que oui. si je veux agresser, je peux faire bonjour, que je suis quand même pas idiot.
Mais ça vous est arrivé, Pierre, de vous dire, peut-être que cette personne ne comprend pas ce que je suis en train de faire. On le ressent, on le sait quand on met quelqu'un mal à l'aise.
Exactement. Et le fait, moi, personnellement, quand je le ressens, justement, j'essaie d'amener une distance derrière pour montrer que c'était vraiment pas méchant, qu'il n'y a aucune agression. Je pense qu'après, il y a quand même 95% des gens qui sont normaux et qui vivent
mais bien sûr, évidemment.
Ça, c'est tellement mineur le nombre de ça, mais ça peut être simple à vivre pour les gens qui le vivent. Mmh. C'est vrai qu'il y a tellement limite entre la personne qui veut séduire, l'homme qui veut séduire, et puis l'homme qui veut agresser. Des fois, c'est tellement une frontière très mince que ça va quand même pas être simple pour les femmes, quoi, c'est clair.
Je veux bien que vous m'appeliez, madame, au 3216. On attend, vraiment vos expériences, vos réflexions, pour nous dire comment vous pensez les choses ou comment vous les avez éventuellement vécues. Pierre, qu'est-ce que vous conseillez à un homme qui vous entend là et qui reçoit, je sais pas, une employée dans son bureau? Il faut qu'il laisse la porte ouverte par peur, par inquiétude, par réflexe?
Moi, je dirais que surtout, non, quand même pas. Je pense qu'il faut quand même pas exagérer.
Ouais.
Je pense que quand même, on a quand même toute notre réputation. Moi, la seule chose que je conseille, c'est ne jamais, même toucher la main d'une femme, jamais faire ça, quoi. Parce que on sait pas comment elles peuvent réagir ou comment elles peuvent se sentir les choses.
Ouais.
Donc moi, j'essaie de n'y avoir aucune ambiguïté là-dessus. Je ne touche aucune femme, surtout quand on est que tous les deux, quoi.
Alors, ce qui est très étonnant, Pierre, dans ce que vous racontez, c'est que si on se fie, et vous le verrez ce soir certainement, ce documentaire, cette enquête signée par Andrea, ce sont les mots qui font mal. Ce sont pas vraiment les gestes, hein. Ce sont les mots qui font mal.
Ouais,
Andrea, dans vos témoignages. Racontez-nous les femmes que vous avez.
Juste, je voudrais revenir sur ça. Oui. On a l'impression qu'on décrit les femmes comme de la nitroglycérine, c'est-à-dire des femmes qui tout d'un coup, soudainement, pourraient exploser. On ne sait pas. Non, c'est pas ça. Le vraiment très clairement, 30% des couples se rencontrent sur le lieu de travail.
Oui,
dans mon film, il y a 6 femmes qui prennent la parole. Il y en a 3 qui ont rencontré leur compagnon. Dans le cadre de leur travail.
Donc la séduction, c'est une chose, la drague, c'est une chose.
C'est ce qu'a dit Maud Becker. C'est du consentement, c'est du respect, c'est du plaisir. Voilà. Mmh. Le harcèlement sexuel au travail, c'est totalement autre chose. Ce sont des prédateurs, ce sont des personnes qui cherchent à anéantir, à humilier, à faire mal, à objetiser. Et d'ailleurs, souvent, ils s'attaquent à des femmes, même si je suis d'accord encore une fois avec Maud, ce sont des femmes très fortes qui dénoncent. Elles sont extrêmement courageuses, elles relèvent la tête et elles sont extrêmement dignes. Le harceleur les a souvent attaqués à des moments où elles étaient plus vulnérables qu'à un autre moment.
Donc il n'y a pas une typologie. On imagine souvent qu'un harceleur va s'orienter vers une subordonnée, par exemple. On imagine rarement un harceleur harceler sa supérieure hiérarchique. Ça existe ?
Moi, j'ai pas l'impression, mais
j'ai jamais eu de cas à mon cabinet. En effet, il y a souvent
un lien
hiérarchique. Ça arrive entre collègues. Ça veut pas dire que ça sera pas un harcèlement si c'est entre collègues. Hein.
Oui.
Mais
de
il
même
est vrai
niveau,
que
vous dire,
oui,
de
il
même
est
niveau.
Vrai que comme la volonté d'humilier et d'imposer une peur à la victime pour pas qu'elle réagisse, le fait d'être un supérieur hiérarchique marche évidemment beaucoup mieux dans la tentative de domination, puisque la personne a souvent peur de perdre son travail. Parce que c'est ça qu'on oublie de préciser, c'est que en fait, les femmes, pourquoi elles réagissent aussi mal au fait de harcèlement? C'est qu'elles savent que la majorité des femmes qui vont dénoncer vont perdre leur emploi.
C'est pas la majorité, c'est toute. Le pourcentage, il est de 95%.
La VFT, l'association contre les violences faites aux femmes, qui est une des seules, voire la seule association qui fait ce travail-là pour toute la France, dans leur dossier, 95% des femmes qui dénoncent perdent leur travail.
Alors il y a 95% en effet des femmes qui sont suivies, qui font des démarches, qui ont perdu leur emploi suite à ces démarches-là, donc c'est vraiment très important. Et au niveau national, le Défenseur des droits avait fait une étude et 40% des représailles professionnelles, ce qui est quand même extrêmement important.
Oui, c'est beaucoup.
Là où simplement 30% des harceleurs dénoncés ont eux des représailles professionnelles. Donc c'est ça aussi qui est quand même assez sidérant.
Pierre, vous avez 34 ans, hein. Est-ce que vous pensez que votre manière de raisonner est liée à votre âge ?
Certainement. Je pense qu'on est quand même dans des générations différentes suivant les hommes et les tranches d'âge qu'on peut avoir. Mais
si vous discutez de ça avec votre père, il réagit comment ? Il vous dit que oh, attends, mais ça va, t'es fou, pourquoi ? Ou pas du tout ?
Ah non, je pense qu'on n'a quand même pas la même approche parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, on est quand même moins de barrières qu'à l'époque entre les hommes et les femmes, quoi. Mmh. Et je pense qu'on est. Moi, j'aurais du mal, je pense pas que ce soit facile à discuter de ça avec mon père. Les relations de travail, quand même, moi, j'ai toutes mes copines, quoi, les filles du boulot. Donc, c'est compliqué, justement, d'amener cette barrière entre. T'es ma copine, mais. Voilà, je veux rien de plus. Et. C'est vrai que pour un homme, c'est toujours ambigu, donc c'est pas simple pour nous non plus, hein, parce qu'on est quand même dans le monde général,
non.
Les hommes.
Oui, oui.
et des fois, c'est pas simple aussi pour nous de se comporter comme il faut pour pas avoir d'ambiguïté et puis pas mettre mal à l'aise la personne d'en face, quoi. C'est ça aussi le plus compliqué, quoi.
Alors Pierre, le procès du harcèlement, ça n'est en aucun cas le procès des hommes, c'est le procès de certains hommes qui harcèlent certaines femmes. Et merci de nous permettre de dire
oui,
ça.
Oui, voilà, je préfère le préciser parce
que on est clair.
Quand on entend homme, quand on entend ça, on se dit mais on est horrible, quoi. C'est pas possible d'entendre ça. Mais c'est vrai que c'est tellement horrible quand ça arrive à certaines femmes que c'est important d'en parler, quoi.
Merci de nous avoir appelé au 3216. N'hésitez pas si vous êtes une femme et que vous avez envie de témoigner, parce qu'on a beaucoup d'hommes qui nous appellent. C'est très Je sais pas ce que ça raconte, mais si vous êtes une fille, appelez-nous aussi. 3216, à tout de suite.
RMC, M comme Maïtena.
Il m'a demandé de laver toutes les étagères du bar, profitant du fait que j'étais en jupe pour bien se rincer l'œil.
Je vous regarde avec un regard de pervers en se frottant les parties intimes.
Oh, ça va, c'est pas un viol. Qu'est-ce qu'on peut dire face à quelqu'un qui dit oh, ça va, c'est pas un viol ?
J'ai eu l'impression qu'il me prenait pour une pute, quoi.
Il m'a demandé si je voulais me faire sodomiser sur son bureau tout neuf, quoi.
Si vous ne voulez pas travailler toute votre vie au Tripostal, venez en mini-jupe.
Maïtena Birabin.
Nous continuons de parler de cette soirée spéciale que consacre France 2 au harcèlement au travail. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous devriez comprendre ce soir en regardant la télévision ou en écoutant RMC pour l'heure. Nous sommes avec Maud Beckers, avocate spécialiste du droit du travail et des discriminations. Vous sortez du tribunal où vous venez de plaider un cas de harcèlement sexuel. Vous avez de bonnes chances de gagner ou pas ?
Écoutez, malheureusement, le dossier a été renvoyé car c'est une technique malheureusement assez courue de la part des employeurs qui essaient de gagner du temps, parce que tout le problème des victimes de harcèlement sexuel, c'est qu'elles doivent emprunter des voies judiciaires qui durent très longtemps.
Ouais.
Et là, j'ai été confrontée à un employeur d'extrêmement mauvaise foi qui a contraint le tribunal à renvoyer au mois de février. Mmh. Donc on perd encore quelques mois.
Andrea Rollin, c'est avec nous également. Elle a co-réalisé avec Laurent Folea cette enquête qui sera diffusée ce soir à 22h30. Le harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous. On se demandait au début de cette émission si c'était toujours un homme qui harcelait une femme. Et nous avons la réponse. Jérôme est avec nous au 3216. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Jérôme.
Non, moi c'est Maïtena. C'est vous Jérôme. Ah, moi c'est Maïtena. Ça va sinon
bonjour,
toi.
Bonjour Maïtena. Bonjour Maïtena.
Ah, t'es au taquet Jérôme. T'es à fond, bravo.
J'étais dans mes pensées, je suis au téléphone depuis tout à l'heure.
Donc moi Maïtena, toi Jérôme. Tout va bien Jérôme.
Oui, voilà.
On écoute ça. Votre témoignage Jérôme qui est absolument passionnant. Racontez-nous.
Oui, donc ça s'est passé environ il y a 2 ans. Donc je suis prestataire de service.
Ouais.
Donc j'étais en poste fixe sur un hôtel. C'était ma cliente. Ça s'est passé donc avec ma cliente. On était en train de jouer le contrat, un très gros contrat pour notre société, plus de 2/5 du chiffre d'affaires. C'était pas sûr qu'on allait avoir encore le contrat, mais on était déjà sur place.
Mm-hmm.
Et donc j'avais une cliente qui me faisait beaucoup de propositions, plus ou moins directes ou indirectes.
C'est-à-dire le plus direct qu'elle ait fait, c'était quoi, Jérôme ?
Le plus direct, bon, ça c'était plus vers la fin, le plus direct où elle a carrément essayé de m'embrasser alors que j'avais refusé maintes et maintes fois. Mais sinon, c'est plein de choses. Elle vient bien fumer une cigarette avec moi, viens faire ce lit, accompagne-moi faire cela, et voilà, plein
donc
de choses.
Donc une pression permanente.
Oui, parce que bon, on sait pas trop comment faire. On se trouve avec sa cliente. Un contrat derrière en coulisses très important pour l'entreprise, beaucoup d'attentes vis-à-vis du patron.
Oui, bien sûr. De votre patron à vous. Il n'y aurait pas eu ce contrat, vous l'auriez
envoyé.
Si vous n'aviez pas eu ce contrat, vous l'auriez envoyé balader, cette dame.
Oui, je pense, oui. Mais voilà, je devais me tenir plus ou moins correctement, malgré tout ça, pour me tenir bien. Et puis donc c'était une inauguration officielle de cet hôtel, donc une soirée extrêmement importante où j'avais énormément travaillé avec un collègue à moi. Ce soir-là, c'est là que je l'ai recalé, on va dire. Elle a essayé de m'embrasser, je l'ai recalé fermement, hein, parce que sinon, c'était pas loin du... Pas du viol, c'est pas exagéré, mais bon, elle était extrêmement avenante. Et donc, le lendemain, ma direction en visite, donc ma cliente, devant ma direction, a félicité mon collègue pour le travail, et pas moi.
Oui.
Alors qu'on avait travaillé de la même façon. Et je pense que c'était par rapport à mon refus, tout simplement.
Oui.
Donc, moi, je suis entré dans le collimateur du patron, suite à ça.
Mais est-ce que vous avez été, Jérôme, jusqu'à avoir peur de cette femme ?
Non, pas peur, mais bon, pas peur, mais bon, c'est vrai quand même, c'était quand même pas mal de pression.
Ouais. Est-ce que vous en avez parlé à vos patrons ? Est-ce que vous leur avez dit attention, elle a pas un comportement normal ou vous n'avez pas osé le faire ?
Alors, je l'ai dit quand je suis tombé un peu de haut après la soirée où on avait travaillé, on va dire presque 15 heures, enfin toute la journée, où elle a félicité que mon collègue devant la direction. Quelques jours après, j'ai vu ma direction. Donc je l'ai dit à mon patron, je lui ai dit ce qui s'était passé.
Oui.
Voilà.
Et vous a dit quoi ?
J'avais refusé. Alors dans un premier temps sur le ton de l'humour, il m'a dit bon, t'aurais pu donner ton corps pour la société quand même.
L'humour.
Et il m'a dit ça sur un ton de l'humour. Et après, c'est vrai que moi je pensais pas à ça en tant qu'homme, je pensais pas au harcèlement.
À vivre
moi,
ça.
C'est vrai que c'est vrai pour moi ça va que dans un sens forcément.
Et
c'est
oui.
Lui qui m'a sorti ce mot-là. Il m'a dit non mais ça et on va en discuter parce que ça c'est du harcèlement sexuel.
Et ça vous a fait du bien d'entendre que c'était du harcèlement ?
Bah oui, sur le coup, ça m'a fait drôle parce que c'est vrai, même si ça faisait plusieurs mois que je vivais ça, je m'étais jamais dit, tiens, c'est du harcèlement, on n'y pense pas.
Vous l'avez attaqué, cette femme?
Non, puisque quelques mois, même pas quelques mois, quelques semaines après, elle a fini par démissionner.
Uh-huh.
Donc je n'ai vu plus de contact avec elle.
D'accord.
Mais non, voilà, c'était pour vous faire partager ça.
Eh ben, merci, Jérôme.
Revenir aussi, je vous en prie, sur ce que vous disiez un précédent intervenant tout à l'heure. Aujourd'hui, maintenant, je manage une petite équipe où j'ai des femmes aussi. Et c'est vrai que c'est très compliqué en tant qu'homme qu'on veut faire bien les choses. Un petit mot de travers, une petite phrase, on ne fait pas forcément attention, peut très vite engendrer beaucoup de choses.
On rappelle, Jérôme, et vous avez tout à fait raison de le dire, mais on rappelle que si quelque chose a dérapé, on peut aussi toujours s'excuser. Et ce qui fait toute la différence entre le harceleur et le maladroit, entre le goujat, le gros lourd, celui qui a simplement eu un mauvais mot, et un harceleur qui, on le rappelle, est puni par la loi. Merci infiniment de votre témoignage au 32-16, Jérôme. Je rappelle aux jeunes femmes et aux plus âgées qu'elles peuvent également nous contacter au même numéro. Maître, une question. Est-ce que le droit a évolué plus vite que les mœurs? Moi, quand j'entends Jérôme qui a 24 ans, qui vient de nous appeler, ou le jeune homme Pierre qui était avec nous un peu avant, ils sont jeunes. Et le droit, il a un peu... on a l'impression qu'il va plus vite que les mœurs, ou à l'inverse, j'en sais rien.
Non, moi j'ai l'impression qu'ils réagissent un peu de façon parallèle, parce que même si ces deux jeunes hommes qui ont appelé en disant qu'ils étaient sensibles à la question, ils sont quand même assez affolés visiblement par une frontière qui serait très mince entre le harcèlement et la séduction, alors que la frontière elle n'est absolument pas mince.
Oui.
Donc en fait ils ne comprennent pas véritablement. Et d'ailleurs ce qui est assez surprenant, c'est que dans le dernier témoignage, autant Jérôme je crois a dit qu'il a subi des faits de harcèlement, qu'il en a souffert. Et pour autant, quand il s'adresse aux femmes, il a peur de faire du harcèlement. Donc en fait, ils ne comprennent pas bien.
Il est attentif, on va dire.
Il a subi, et ce qu'il décrit, c'est-à-dire un comportement de pression avec des représailles professionnelles après tentées par le harceleur, etc. On est là dans le harcèlement sexuel, alors que lorsqu'on parle à un collègue de travail, même en faisant en effet une blague une fois un peu lourde, je rappelle tout de même que la définition, elle est précise. Hein, c'est des faits et des propos à connotation sexuelle qui ont pour effet de porter atteinte à la dignité, qui sont dégradants, humiliants, et ça, c'est des choses que vont devoir prouver les victimes devant les juges.
Oui.
Donc, bien évidemment, on n'est pas juste sur une séduction qui se passe pas très bien. Hein, par contre, il y a des séductions qui se passent pas très bien, qui sont en effet très lourdaudes et qui sont des harcèlements sexuels, mais parce que ça porte atteinte à la dignité. Et ça, il faut une démonstration.
Je vous encourage à aller écouter sur le site du New York Times un enregistrement audio d'Harvey Weinstein, donc ce producteur de cinéma surpuissant qui reçoit une jeune femme dans sa chambre d'hôtel et qui lui demande, je crois en l'occurrence, de le regarder prendre un bain ou de le masturber, je ne sais pas, je sais pas exactement. Mais en tout cas, l'entente de ce message est absolument invraisemblable. On rappelle qu'on ne peut pas le présenter devant les tribunaux. Hein. On peut avoir la preuve en fait, audio ou visuelle, vidéo d'un harcèlement et ça ne sera pas valable.
En fait, tout dépend des tribunaux devant lesquels on s'adresse. Au niveau du pénal, pour poursuivre la personne physique, c'est-à-dire le harceleur, l'agresseur ou le violeur, en effet, tout enregistrement pourra finalement être accepté par la juridiction. Par contre, là où elle va être refusée, c'est devant les juridictions prud'homales, civiles. Et pourtant, c'est très important qu'il y ait des procès qui soient faits contre les employeurs, parce que si on veut prévenir le harcèlement sexuel, il faut que les entreprises enfin mettent en place des politiques de prévention contre le harcèlement sexuel. Et là, devant ces juridictions-là, pour faire sanctionner quelquefois des grosses boîtes, eh bien on arrive avec des enregistrements et la femme va sortir déboutée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas obtenir satisfaction, alors qu'elle aura un enregistrement très clair qui lui dira par exemple, écoutez, qui vous parle d'amour, je vous demande juste de coucher avec moi parce que sinon vous aurez des représailles. J'ai eu des dossiers comme ça avec des enregistrements et la Cour d'appel de Paris, il y a moins d'un an, vient encore de nous débouter là-dessus. Et ça, le législateur doit s'en saisir. On parlait justement d'évolution des mœurs et de la législation. On a des outils technologiques aujourd'hui qui peuvent être utilisés comme les portables et il faudrait que le législateur fasse quelque chose là-dessus.
Andréa Rollins, est-ce qu'on est tout égal face avec notre âge, face au harcèlement? Est-ce que quand on est jeune, on n'est pas une cible plus facile aussi?
Moi, je crois que toutes les femmes peuvent à un moment de leur vie être harcelées. Je vais juste revenir sur ce que disait Jérôme et sur les entreprises. Oui. Je crois que c'est une obligation, effectivement. Toutes les entreprises se doivent de sensibiliser, c'est dans la loi, sensibiliser son personnel.
Mais comment sensibiliser quand on comprend pas soi-même?
Il faut déléguer à des organismes spécialisés là-dedans qui existent.
Absolument. Et Jérôme, ce qui est terrible dans son témoignage, c'est la complicité de l'entreprise.
Qui a commencé par rire, mais qui a très vite réagi dans la même discussion.
Oui, il y a quand même ce truc qu'on entend régulièrement.
La blague,
mets des jupes plus courtes, si tu veux, qu'on signe des contrats. Il y a quand même ce truc-là qui est encore extrêmement présent.
Nous avons Nathalie avec nous au 32-16. Merci Nathalie de nous appeler. Comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, fantastique. Je suis ravie de vous entendre avec cette bonne voix et vous allez nous expliquer pourquoi elle est si bonne.
Bah, écoutez, moi j'ai été victime de harcèlement sexuel à mon travail. Fonctionnaire dans un laboratoire de recherche. Et j'ai travaillé 10 ans avec mon harceleur.
10 ans.
Et à l'époque, 10 ans, j'ai subi. Ça a commencé par du harcèlement moral. Et ensuite, ça a dégénéré sur du harcèlement sexuel. J'ai mis très, très longtemps à m'en rendre compte, en fait.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez eu du mal à vous rendre compte que c'était pas de l'humour ou un gros lourd et que c'était illégal, en fait, ce qu'il faisait. On met longtemps à s'en rendre compte, de ça, Nathalie.
Voilà, parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très manipulateur. Il s'arrangeait toujours pour se retirer quand il voyait qu'il allait trop loin. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait, on voit très bien, oui. On voit très bien. Est-ce que vous diriez juste, Nathalie, parce qu'on court après le temps, que vous étiez une faible femme?
Ah, pas du tout.
Ouais.
Absolument pas du tout. Et c'est justement, je pensais qu'en étant très très forte, j'arriverais justement à encaisser ça. Et puis, j'en suis arrivée à me rendre compte qu'il était ignoble avec moi. Il me sortait des choses des horreurs. Et je me suis aperçue de ça et je suis allée voir ma hiérarchie. Et c'est ma hiérarchie. Ma directrice de labo m'a dit mais c'est du harcèlement sexuel.
Et donc vous avez été aidée par l'entreprise. Alors comme la liaison est assez mauvaise, vous nous avez dit que vous aviez bénéficié de la loi contre le harcèlement, que vous avez porté plainte et que vous avez gagné votre procès. Force est de constater, en tout cas dans votre documentaire Andréa, que c'est toujours du sursis que prennent les harceleurs.
Oui, les peines ont l'air quand même assez légères sont très légères par rapport à ce que ont subi les femmes pendant la période de harcèlement et ce qu'elles subissent encore des années après.
Ouais. Oui, parce que ça reste le traumatisme, il reste, évidemment.
La plupart des femmes ont du mal à se reconstruire, puis même professionnellement. Justifier 3 ans d'absence, par exemple, parce que on avait du mal à repartir, à retravailler avec un homme. On ne peut pas dire qu'on a été victime de harcèlement sexuel au travail, parce qu'il y a tout de suite une suspicion aussi.
Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Évidemment. Merci beaucoup à vous, messieurs, de nous avoir appelés au 32-16. Merci à Nathalie d'avoir composé ce numéro. Si vous vous demandez encore, si vous n'êtes pas tout à fait clair, si vous n'avez toujours pas compris, nous vous recommandons recommandons de regarder la soirée de France Télévisions, que France Télévisions consacre au harcèlement sexuel. C'est sur France 2, c'est ce soir, un film, une enquête et un débat animé par Marie Drucker, qu'on embrasse. Merci Maud Beckers d'être venue ici. Merci Andréa Rollins, c'était bien sympa de vous recevoir. Je vais recevoir maintenant Florence Portelli. Elle a déposé ce matin les parrainages suffisants pour se présenter à la tête des Républicains face à Laurent Wauquiez. Elle vient nous dire ce qu'elle espère d'eux et pour son parti. A tout de suite sur RMC.
RMC, M comme Maïtena.
Florence Portelli, maire de Taverny, conseillère régionale Île-de-France, porte-parole des Républicains pour les législatives et présidente de l'Orchestre national Île-de-France.
Moi, je suis sûre en tous les cas que les militants attendent une autre façon de faire de la politique.
Moi, je ne suis pas une girouette, donc je ne passe pas mon temps à osciller au gré des vents quand ça m'arrange et selon les humeurs du moment. Je parle peut-être moins fort que certains, mais mes idées à moi, elles sont fermes. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est l'ode à la compromission. D'ailleurs, Macron a érigé ça en système et je vois que certains s'y sont engoncés avec beaucoup de facilité, mais c'est pas mon cas. Moi, je serai la candidate de la clarté et pas des slogans.
Mais je suis encore plus fière d'être la candidate des militants et pas des chapeaux à plumes.
Maïtena Birabin.
C'est votre orchestre qu'on entend là, c'est l'Orchestre National d'Île-de-France. J'ai l'impression d'être sur France Culture. Bonsoir Florence Portelli.
Bonsoir.
Bienvenue, merci d'être là. C'est donc vous la candidate de la clarté, mais voilà, elle est là, on en a une.
Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai eu plus de 5000 parrainages. D'ailleurs, j'ai un collaborateur qui m'a dit on en a encore reçu 400 ce matin.
Oui.
Donc je pense qu'en fait, on est en réalité pas trop loin des 6000.
Oui.
Et sans moyens, sans argent, qu'avec des bénévoles, sans QG. Et voilà, ça ne m'étonne pas. Moi, depuis le début, j'ai pas demandé la manne. J'ai pas été mendier des parrainages.
Mm-hmm.
Je savais ce qui se passait avec les militants et je suis pas étonnée.
Alors, on va dire que vous êtes candidate donc officiellement. Mm-hmm. Enfin, ça sera quand ça aura été recompté, oui. Mais vous avez déposé. En tout cas, puisque vous avez suffisamment de parrainage, votre candidature à la présidence des Républicains. Vous avez fait ça en étant heureuse, surprise et satisfaite?
Alors, surprise, non, mais très heureuse.
Pas surprise?
Non, parce que depuis le début, moi, je me suis lancée parce que, justement, des militants m'avaient proposé d'y aller. J'y avais pas pensé par moi-même au départ. Et j'ai été saisie par des militants sur Twitter ou sur Facebook qui m'ont dit « Mais pourquoi ce serait pas vous après tout? On vous connaît, vous avez été fidèle. Bon. » Ça revient très souvent à la fidélité.
Vous y allez, vous y croyez. Face à vous, il y a Laurent Wauquiez qui a 20 500 signatures d'adhérents, 135 parlementaires. Bon, c'est le favori, quoi.
Oui, enfin, 20 000 et quelques, c'est 10 000 de moins que Sarkozy ou Fillon. Mais c'est bien,
oui,
hein, mais
c'est,
je veux
c'est
dire, c'est le numéro 2 actuel du parti. Hein.
Oui.
C'est la moindre des choses, je dirais.
C'est la moindre des choses. Le plus dur commence maintenant. Difficile pour nous et pour vous, j'imagine, d'oublier le fiasco, que dis-je, le naufrage de la guerre Copé-Fillon en 2012 dans cette même élection. Est-ce que vous ferez tout pour éviter ça? Est-ce que vous avez une limite?
J'ai mon intégrité, mon éthique, mais surtout, je ne fais pas campagne par rapport à un autre ou à une autre. Enfin là, par rapport à d'autres, hein, puisque je suis la seule femme.
C'est la seule, oui.
Mais je fais campagne par rapport à la ligne que j'entends défendre et par rapport aussi à ce que je crois attendent les militantes et les militants. Les autres ne m'intéressent pas.
Oui, mais les coups bas, ils peuvent venir.
Oui, mais j'ai le cuir tanné.
Oui, donc vous répondrez, vous subirez, mais vous ne répondrez pas.
Je répondrai à fleur et moucheté. J'ai fait un peu d'escrime dans ma vie, ça me rappellera les cours de sabre.
Un autre candidat, Maël de Calon, a lui aussi obtenu ses parrainages. Il a envoyé un message aux favoris. Quand je l'ai reçu ici, il s'adresse à Laurent Wauquiez.
Il accepte le débat que les grandes chaînes d'infos en continu, à commencer par BFM, lui ont proposé dans le cadre de la présidence des Républicains.
Vous irez s'il l'accepte?
Bien sûr, mais non seulement j'irai, mais j'ai répondu positivement. Je crois que LCI, CNews et BFM ont proposé d'organiser ce débat. Et je crois que c'est très important pour tous les adhérents des Républicains et pour les électeurs de la droite et du centre que ce débat ait lieu.
Et vous, Florence Portelli, vous irez?
Bah déjà, moi, je répondrai pas parce qu'en fait, je suis à l'initiative de la demande. C'est moi qui l'avais demandé à la début septembre. Et il y avait eu en effet un bel écho de la part de la presse. Et je l'ai redemandé ce matin.
Ouais.
Donc, j'étais la première à le demander. J'y tiens. Je pense que c'est très important. Un débat, ça avait montré d'ailleurs son utilité pendant la primaire. Et parfois, ça permet d'en découdre avec les scénarios établis par avance par certains et par le système.
Alors, quand on n'appartient pas aux Républicains, on ne vous connaît pas, en tout cas pas bien, et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous avez commencé avec une déclaration assez rigolote qu'on a entendue dans le générique pour vous accueillir. Je suis la candidate des militants, ça jusque-là je comprends. Pas des chapeaux à plumes. C'est qui les chapeaux à plumes?
Non, c'est vrai que depuis le début de ma candidature, il y a un vrai élan des militants, on sent une dynamique, sinon je serais pas un score pareil de soutien. Et en revanche, ça a été un peu plus timoré du côté des parlementaires.
Oui.
D'ailleurs, je remercie ceux qui ont le courage de me soutenir.
Oui.
Mais autant mes autres concurrents n'ont eu qu'une difficulté, autant pour ma part...
Pourquoi vous dites le mot courage? Ils ont eu le courage de me soutenir.
Écoutez, j'observe que d'autres ont été aidés ou ont demandé de l'aide. Moi, ça n'a pas été le cas. Et je ne pense pas qu'on ait encouragé les parlementaires à me parrainer. Ça, c'est sûr.
Vous voulez dire qu'on a fait pression sur eux en leur disant non, pas elle, s'il te plaît, c'est ridicule.
Je ne dis pas forcément ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que j'étais la candidate rêvée, peut-être pour certains. Parce que je suis une femme, parce que on sait que j'ai un socle solide chez les militants, parce qu'ils m'ont vu faire campagne pendant la présidentielle et.
Pour François Fillon.
Et après, pendant les législatives avec François Baroin. Et malgré tout ça, bah, j'ai eu mes parrainages bien au-delà de mes espérances.
Les chapeaux à plumes, ce sont surtout des chapeaux à pompons, si je comprends bien. Ce sont des garçons.
Oh, pas seulement. Parfois, on est peut-être un peu frileuse aussi chez les dames. La solidarité féminine, je ne sais pas. Oui, puis après, on peut matiner ça avec une petite dose de machisme. Ça arrive aussi. Pas que dans le milieu politique, d'ailleurs, même parfois aussi dans la presse, un peu partout. Moi, j'ai lu des commentaires me concernant qui étaient parfois assez méprisants. Et aujourd'hui, ça me fait sourire d'avoir, contrairement à d'autres de mes concurrents, un très joli score en matière d'adhérents.
Ça veut dire qu'on vous prend pas au sérieux quand vous candidatez à la présidence des Républicains.
D'autres ont l'air étonnés. Mais je leur dis, mais pourtant, depuis le début, je vous disais que c'était couru d'avance, que j'avais fait du travail avant, que j'avais été visible, que les militants m'aimaient bien. Mais comme j'étais la jeune femme de l'étape, qu'à la base, je ne suis pas parlementaire. Alors, c'est pareil, quand on est une femme, le CV rétrécit.
Oui.
On m'a souvent dit, la maire de Taverny, ce qui est une fierté, hein.
Oui.
Oui, une ville de 27 000 habitants, prise à la gauche alors que c'était un bastion, vice-présidente de la plus grosse agglo du Val d'Oise, chargée de la sécurité, vice-présidente du groupe LR à la région. Mais c'est curieux quand on est une femme, comme ça tend à rétrécir et comme on a droit à la condescendance générale.
Vous avez été la porte-parole de François Fillon pendant la campagne. Vous avez de ses nouvelles? Est-ce qu'il vous a félicité déjà?
Alors, je me suis toujours engagée à ne jamais faire état des discussions que j'avais avec François Fillon, parce que je trouve que beaucoup parlent de leurs discussions qui parfois sont imaginaires.
Bah, vous l'avez soutenu, est-ce qu'il vous soutient, en fait, c'est ma question?
En tous les cas, on a une bonne relation humaine.
Et on ne sait pas s'il vous soutient. Ça vous embarrasserait qu'il vous soutienne?
Non, pas du tout. C'est pas pour ça. C'est parce que je trouve que aujourd'hui, il a pris du recul et j'aime pas parler pour lui. Pour ça. Par respect.
Alors, diriez-vous que vous êtes à la droite ou à la gauche de Laurent Wauquiez?
Bah, je ne sais pas où il est, donc je peux pas vous dire.
Comment ça, vous savez pas?
Bah non, on va voir quelle est sa ligne, quelle est sa. En plus, ça change parfois. Mais en tous les cas, je suis constante et je sais quelle est ma ligne. Je me situe pas par rapport à Laurent Wauquiez ou d'autres.
Hein. Mais il faut bien, puisque vous êtes. Pardon, mais c'est une élection.
Est-ce que vous demanderiez
Laurent Wauquiez s'il se trouve à votre gauche? Bien sûr. Évidemment, je lui demanderai.
Déjà, vous êtes féministe, c'est bien. Mais
non, je suis juste citoyenne. Je pose des questions les mêmes à tout le monde.
Mais honnêtement, je ne sais pas quelle est sa ligne aujourd'hui.
Donc, alors je veux intéresser.
Merci pour moi de répondre.
Je vais m'intéresser à la vôtre. Est-ce que vous partagez, comme François Fillon, les valeurs chrétiennes de sens commun?
Alors, excusez-moi, c'est pas pour botter en touche, mais déjà, les valeurs chrétiennes de sens commun, c'est compliqué.
C'est François Fillon qui est... C'est
non, mais c'est compliqué
Fillon.
Parce que j'ai parlé souvent avec des gens de sens commun, mais quand je parle avec des gens de tous bords, et même à sens commun, il y a des nuances. Il y a des différences entre les gens. Il y en a qui sont, si on reprend vos thématiques, très à droite, d'autres qui sont très sociaux, très chrétiens sociaux. On serait même étonné parfois de ce que pensent certains. Donc c'est compliqué. Moi, en tous les cas, à titre privé, dans ma sphère privée, j'ai des opinions.
Oui.
En tous les cas, je n'en fais pas état sur la place publique.
Mais vous qui vous candidatez à la présidence des Républicains, vous le dites aujourd'hui chez
Sens
Commun.
Je ne suis pas Sens Commun, en tous les cas.
Chez Sens Commun, il y a des gens avec qui je peux discuter.
Je peux discuter avec tout le monde. Je discute avec des gens de gauche, des gens d'extrême gauche, des gens du centre.
Laurent Wauquiez, il dit Sens Commun n'aura plus sa place s'il y a le moindre passage à l'acte en direction du Front National.
De toute façon, j'ai toujours été très claire. Hein. Pas de compromission avec le Front National. J'ai même été beaucoup plus claire que Laurent Wauquiez. Le soir de la défaite, au premier tour de la présidentielle, à 20h, j'étais devant BFM d'ailleurs, et je disais qu'il fallait appeler à voter Macron.
Ouais.
Et c'était clair et net, j'avais pas besoin d'un communiqué ambigu ou d'une prise de position frileuse.
Donc vous étiez quoi? Plus républicaine que Laurent Wauquiez?
Non, mais c'est pas ça. Pour moi, la lutte contre le Front National, ça fait partie aussi de mon ADN. Et pour moi, c'est déjà pas de compromission à titre moral.
Oui.
Je fais évidemment une distinction entre les gens qui vont voter Front National, qui ne sont pas tous... qui n'ont d'ailleurs pas tous les idées de Madame Le Pen et de ses amis. Mais le parti, c'est hors de question. Et en plus, c'est un parti qui souhaite nous mettre à mort. Mmh. Donc j'ai en plus toujours trouvé complètement stupide d'aller tendre la main à des gens qui veulent notre mort politique.
Votre avis sur la campagne d'affichage contre les enfants issus de PMA comparée à des légumes OGM? Vous l'avez vu cette campagne?
Oui, je trouve que c'est choquant, mais je n'aime pas de toute façon tout ce qui est outrancier, tout ce qui est irrespectueux de la dignité humaine.
Donc c'est outrancier et irrespectueux?
Oui.
Vous avez rendu visite à Nicolas Sarkozy en mois d'août, c'était par politesse, par respect, pour saluer le parrain. Pourquoi êtes-vous allé voir?
Le parrain, en tout cas, il ne m'a pas parrainé, je ne pense pas, mais...
Non, le parrain, c'était dans le sens du film italien, vous voyez?
Oui, je vois bien.
Oui,
c'est un passage obligé d'aller voir Nicolas Sarkozy.
Non, mais je me suis dit que c'était une question de respect parce que comme il avait été le président des Républicains, qu'il avait fondé le parti auquel alors que j'aspire justement à être la présidente de ce parti, ça me semblait normal.
Voilà. Vous avez fait la même chose avec Jean-François Copé?
J'ai des bonnes relations avec Jean-François Copé, je lui ai eu au téléphone, mais j'ai pas besoin de demander particulièrement rendez-vous pour le voir.
Mmh. Oui. Quelle sera la première chose que vous ferez quand vous serez élue?
Ben déjà, remercier mon équipe de campagne, qui a fait un super boulot et qui est bénévole, elle, qui n'est pas payée, qui n'a pas de moyens, qui met souvent de sa poche, donc c'est un bon esprit collégial. Mmh. Et la moindre des choses, c'est de remercier celles et ceux
donc
qui vous ont porté.
Donc vous leur paierez un quoi à boire, ok?
Au moins,
et puis après, pour le Paris,
les militantes et militants qui m'ont élue. Ouais. Et après, bah, je mettrai en place une équipe qui m'aidera à travailler la transition. Mmh.
Je suis un peu étonnée, Florence Portelli, vous dites il faut tout changer, il faut tout remanier de fond en comble, vous avez l'air moderne, vous réclamez de la parole libre. Qu'est-ce que vous faites dans ce parti ringard?
Je m'attendais à cette question, mais justement, quand on est insatisfaite, on a envie de changer les choses. Alors, il y a ceux qui sont désespérés, qui se couchent, et moi, je suis plutôt du genre à me lever. Donc,
très bien. Donc,
et
vous espérez.
Têtu.
Autre dossier qui était censé se conclure ce soir, les départs de Thierry Soler, Francky Riester, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin ou Édouard Philippe. Pour citer Jacques Chirac, que j'imagine vous avez déjà entendu dire ça, voilà qu'il en fait toucher une sans bouger l'autre.
c'est un peu ça, mais je trouve qu'on est ridicule depuis 3-4 mois. On est même le comble du ridicule. C'est grand guignolesque. Il y a longtemps que ça aurait été tranché. Ils sont partis, au revoir.
Bah oui, mais enfin, il faut les exclure. Et
non, mais il fallait pas. Ils étaient déjà exclus pour moi.
Alors,
donc, il fallait acter leur exclusion. Et moi, je le demandais depuis plusieurs mois. D'ailleurs, j'étais la seule.
Le problème, c'est
qu'ils montent les muscles aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient plutôt frileux. Ils étaient plutôt comme beaucoup de messieurs, parfois.
Comment réglerez-vous la question suivante, Florence Portelli? Ils peuvent faire appel à la commission de recours dont ils sont eux-mêmes les membres?
Oui, pour moi, c'est très simple. À partir du moment où vous ne faites plus partie des Républicains parce que vous êtes, par exemple, parti dans un autre gouvernement, où vous êtes couvertement, vous prenez des positions contre ce parti, que vous faites partie d'un groupe politique qui n'est pas avec le vôtre. Je veux dire, quand vous n'êtes pas dedans,
mais
vous êtes
dehors.
Mais ça
n'est pas interdit par les statuts du parti?
Si, il y a toujours possibilité. Non, mais pour moi, ils sont partis.
Oui,
pour
mais
moi, on
pour
acte
vous,
leur exclusion.
Mais c'est pas le
oui, mais je vous demande. C'est au mois de décembre.
L'élection
mais au mois de juin, au bureau politique, moi, j'avais demandé est-ce qu'on leur dise déjà au revoir, parce que pour moi, ils étaient déjà sortis par eux-mêmes. Ils étaient partis. C'est aussi bête que ça. Le don d'ubiquité, ça n'existe pas en politique. Vous pouvez pas être dedans, dehors, à côté, au milieu, derrière, sur les.
Vous voilà
dans
prévenu
le ciel.
Aux Républicains. Ça va pas rigoler. Vous jouez du piano et vous avez monté un groupe avec les fonctionnaires de votre mairie.
Ça m'arrive debout, mais en tout cas, je joue du piano et pas du pipeau.
Et votre groupe avec la mairie s'appelle les Bloody Marys. J'adore ce titre, je trouve ça génial. Vous pensez trouver des gens avec qui jouer au sein du parti?
Écoutez, pourquoi pas? J'ai en tout cas une directrice de campagne qui joue admirablement du violon, donc on va peut-être, on pourrait faire un petit duo. Et c'est très important de jouer de la musique.
Et j'entends les blagues ici, évidemment, ça ne sera pas du pipeau.
RMC.
Je t'aime.
J'aime.
J'aime pas trop beaucoup ça.
J'aime pas.
Je vous propose, Florence Portelli, trois faits d'actu et vous me dites si vous aimez ou si vous n'aimez pas. La ministre de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, qui tweet contre Bertrand Cantat, qui fait la une des Un Rock.
Je suis obligée de dire j'aime ou j'aime pas, j'ai rien indifférente, mais...
Elle tweet au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poing, ne rien laisser passer?
Je suis partagée parce que c'est un artiste et en même temps il a purgé sa peine et à côté de cela j'ai beaucoup de mépris pour cet homme-là, pour ce qu'il a fait à Marie Trintignant. Donc c'est compliqué parce qu'après c'est le problème de purger sa peine. Mmh.
Vous aimez, vous n'aimez pas, plus de la moitié des Français favorables à l'instance de dialogue entre les cultes proposée par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.
J'aime.
Vous aimez, c'était un sondage Opinion Way dans La Croix. Vous aimez, vous n'aimez pas la France qualifiée pour la Coupe du Monde?
Ah, j'aime, je suis une grande fan de football.
Vous avez regardé?
J'ai pas pu voir hier contre la Biélorussie, mais en général, je regarde. Mmh.
Vous aimez, vous n'aimez pas le rapprochement de François Bayrou avec l'UDI?
Je trouve ça sans intérêt. Bayrou se rapproche avec tout. C'est le principe du centre mou.
Ah, c'est incroyable. Merci beaucoup, Florence Portelli, d'avoir été avec nous. Vous avez reconnu Vincent Moscato,
Florence,
qui est rentré dans ce bureau.
Florence, Maïtena, comment ça va, Maïtena?
Ça va, mais j'adore ce pull aubergine.
Salut, sympa.
Mais ce côté élégant.
Écoute, le spécial, la France qualifiée pour la Russie. Ce match de blaireau. Mais t'en veux des matchs de con, hein. Mais tu sais que là, écoute-moi, si t'as payé ta place, tu pleures. Je vais te dire, par contre, t'as vu le match. Il y a un derby, là.
Oui, bah oui.
Bayern Biarritz.
Mais oui, je sais.
Ça,
je pleure pas, ça, moi. Je pleure, moi.
Aïe, 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 la Peña Bayona. Allez, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Florence, mes respects et bonne chance. Vous avez votre candidature, 5000, j'ai vu ce matin, 5-10 000.
On vient en parler pendant un quart d'heure, s'il te plaît, Vincent.
Non, mais je m'intéresse quand même.
Allez, super Moscato Show, c'est tout de suite. On se retrouve, nous, demain à 15h sur RMC. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. Parce que tu sais quoi ?
On va s'aimer.
On va s'aimer.
RMC, M comme Maïtena.